Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Gomard, le directeur général du groupe d'assurance mutuelle Matmut. Bonjour Nicolas, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Bonjour Alice.
En plus, c'est quand même un secteur qui est un peu challengé en ce moment aussi avec la crise sanitaire. Je ne sais pas si on va commencer par ça, puisqu'après on va vraiment parler de la RSE, mais peut-être commençons par le contexte actuel qui est difficile.
Oui, le contexte actuel est difficile pour nos concitoyens, ça c'est sûr. Le secteur de l'assurance est challengé, alors c'est un petit peu, d'une certaine façon, médiatiquement, mais c'est assez injuste, au fond, parce que l'assurance, l'industrie de l'assurance est l'industrie qui a le plus contribué à des mesures de solidarité depuis le début de cette crise, hein, dans le secteur privé. Donc, c'est vrai que nous, assureurs, on comprend pas très bien pourquoi on fait l'objet, comme ça, de critiques de la part d'un certain nombre de personnes. C'est plusieurs milliards d'euros hein, qui ont été débloqués par les assureurs pour soutenir dans différents cas, des gestes en dehors des contrats, des gestes de solidarité, des investissements dans des fonds qui permettent la relance de l'économie. Donc tout ça montre à quel point les assureurs ont été au rendez-vous de la crise, en fait. Et en particulier, si je prends l'exemple de la société qui m'est chère, qui est la Matmut.
C'est aussi pour ça qu'on est là, on va essayer de comprendre ce que...
Bien, écoutez, nous, dès le mois d'avril 2020, c'est-à-dire... à peine moins d'un mois après le début du premier confinement, nous avons pris la décision de geler complètement nos tarifs d'assurance auto jusqu'à la fin de l'année 2021, donc c'est toujours en cours aujourd'hui. Nous avons décidé de reverser 75 euros à tous nos sociétaires qui sont en demande d'emploi. Nous avons décidé un peu plus tard dans l'année, mais de geler tous les tarifs, et avant que la profession ne s'en empare d'ailleurs, tous les tarifs d'assurance de nos clients professionnels et petites entreprises, et pour un montant global de à peu près le résultat de notre groupe en 2019. Donc, vous voyez, on était au rendez-vous de la crise, mais ça nous, quelque part, c'est, d'une certaine façon, c'est un peu normal, parce que c'est un peu dans notre ADN de mutuelle d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, et puis d'être proche de nos sociétaires, d'être prêt à être très solidaire avec eux.
Ce qui est moins dans l'ADN de l'assurance, du secteur de l'assurance, c'est ce qu'on aime valoriser dans l'empreinte, c'est la RSE. Ouais. Et justement, j'ai envie de comprendre les engagements de la Matmut en matière de RSE. Donc, quelle est la raison d'être déjà de la Matmut? Parce qu'elle a été redéfinie en 2019, je crois bien.
En fait, elle est en cours de redéfinition. En fait, la raison d'être de la Matmut, on n'a pas attendu 2019 pour la définir ou pour en avoir une, en tout cas, puisque la maison a été créée il y a 60 ans. Mais c'est vrai qu'on a décidé, il y a à peu près un an et demi maintenant, de formaliser plus précisément cette raison d'être.
Pourquoi justement il fallait la formaliser à ce moment-là?
Eh bien parce qu'on s'est dit que... je vais faire un peu d'histoire.
Ouais, ça va permettre. Carrément.
En fait, la Matmut, ça a été créé, c'est une mutuelle d'assurance, elle a été créée en 1961 pour offrir un accès à l'assurance auto avec des très bons tarifs, donc à des conditions très compétitives, un secteur qui, jusqu'à présent, n'avait pas été ciblé par les autres mutuelles, qui étaient les salariés du secteur privé. Eh bien, c'était de donner à nos concitoyens cette capacité, en tout cas aux salariés du secteur privé, d'avoir accès à une assurance pas chère. Donc, il y avait déjà cette idée, au départ, de contribuer un peu au bien commun. On était un peu, alors ce n'était pas une expression à la mode, mais un peu ce qu'on a appelé ensuite des disrupteurs du marché de l'assurance. Et ce qui explique aujourd'hui, d'ailleurs, que ce marché est un marché extrêmement compétitif. Donc, dès le départ, il y avait cette idée de contribuer finalement au bien commun dans cette démarche. Et puis, alors, le groupe s'est développé au fil des années, en devenant un vrai groupe complet d'assurance, hein, avec 4 millions de clients aujourd'hui, et donc a souhaité et a toujours prôné en tant que mutuelle un certain nombre d'idéaux de solidarité, de bienveillance, de recherche d'un profit raisonnable pour permettre son développement, mais en tout cas pas d'actionnaire, donc, et puis de s'inscrire dans le temps long et de participer à un certain nombre d'actions de prévention, de mécénat, de soutien d'initiatives, notamment dans le domaine de la santé, puisque cette mutuelle s'est créée aussi en proximité du monde des mutuelles santé. Et donc, le temps a passé, et puis on s'est dit, finalement, à un moment où ces sujets de raison d'être sont devenus très,
vrai,
très...
C'est maintenant les entreprises à mission, maintenant.
Oui, il y a eu effectivement la loi Pacte. On s'est dit, nous, on fait beaucoup de choses, on a toujours fait beaucoup de choses, et c'est important peut-être de mieux le faire savoir.
Et dans l'action aussi, j'ai l'impression, ce que tu me dis, tu préfères agir qu'écrire des choses, etc.
Exactement.
Et donc, dans les actions, clairement, qu'est-ce que fait on ne va pas tout dire, mais peut-être les plus gros...
Alors, avant de parler des actions, j'aimerais revenir sur un choix qu'on a fait justement dans cet exercice de formalisation. Une mutuelle, c'est quoi ? Une mutuelle, c'est un certain nombre de personnes qui se regroupent autour d'un objectif commun et qui décident, on va mettre en commun nos destins, et puis s'il arrive un problème avec quelqu'un, la communauté viendra au secours de cette personne. Et c'est la mutualisation qui permet justement de gérer ça. Et donc, on s'est dit, finalement, dans le modèle d'une mutuelle, finalement, les décideurs, in fine, ce sont les sociétaires, c'est-à-dire les clients. Et donc, on s'est dit, dans un sujet aussi fondamental que la raison d'être de notre entreprise, il faut qu'on les consulte. Et donc, on a, dans un processus assez démocratique, au fond, on a lancé une grande consultation qui vient d'ailleurs juste de se terminer auprès de nos 4 millions de sociétaires en leur disant, qu'est-ce que vous, finalement, comment vous vivez les grandes évolutions de la société? Qu'est-ce que vous attendez de la Matmut?
Donc, elle a été coécrite, cette raison d'être, en fait.
Elle est en cours d'être coécrite,
oui,
puisque c'est
cours,
quelque
oui.
chose qui n'est pas tout à fait terminé. Et voilà, donc on a essayé par ça de retrouver, on a associé aussi les collaborateurs du groupe, on a essayé de retrouver un peu cet esprit mutualiste qui a fait qu'à l'origine, les gens se sont regroupés autour d'un idéal commun. Et c'est de cette idée-là qu'on voulait faire revivre aujourd'hui, en quelque sorte. Et donc le travail est en cours et on devrait finaliser les travaux d'ici cet été et annoncer les choses en septembre. Alors pour revenir à la question concernant ce que nous faisons, en fait, notre politique RSE, elle est articulée autour de trois grands thèmes. Le premier, c'est le développement durable, assez classique. Alors là, le mieux, c'est peut-être de citer quelques exemples.
Carrément.
Sur le développement durable, on a deux sujets. Le premier, c'est le plastique.
Alors le plastique. C'est un sujet, je pense, pour tout le monde.
Oui, ouais, tout à fait. Alors le plastique, c'est. Là, j'ai quelques chiffres, mais c'est 9 milliards de déchets, de tonnes de déchets, dont seulement 10% ont été recyclés.
Dans
le monde depuis l'origine. Ça fait un certain temps, mais ça fait quand même... Si on ne fait rien, c'est 300 millions de tonnes de plastique dans les océans à l'horizon 2030. Donc, comme on dit aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Et donc, dans ce domaine-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été assez séduit par une initiative d'un groupe de jeunes gens, des ingénieurs, qui ont monté une opération qui s'appelle Plastic Odyssey et dont l'objectif...
Très connu, Plastic Odyssey.
Tu connais,
ouais. Je connais.
Voilà. Donc, c'est... Et ce qui nous a plu dans cette démarche...
Mais tu peux d'ailleurs la redire pour les auditeurs.
Alors, le principe, c'est quoi ? C'est que ce sont donc un groupe de jeunes ingénieurs pour la plupart qui souhaitent promouvoir auprès de populations plutôt défavorisées dans l'ensemble du monde, dans un grand voyage. Alors, ils ont un bateau qui s'appelle Plastic Odyssey, qui va prendre le large et rejoindre un certain nombre de ports en Afrique et puis à différents en Asie, etc. Et chaque fois, l'idée, c'est de promouvoir dans chacune de leurs escales des méthodes de recyclage du plastique, soit pour en faire des copeaux de plastique pour réutilisables comme plastique, soit pour en faire de l'énergie. Et donc, ce sont des technologies qui sont assez simples, hein, qui sont éprouvées, ça n'a rien de révolutionnaire, mais qui, justement, sont accessibles à des personnes qui ont des revenus modestes. Et l'idée, c'est pas d'aller pêcher le plastique dans les océans. L'idée, c'est de donner, justement, la capacité à ces populations de recycler, de mettre en place des chaînes de recyclage du plastique à des coûts modérés, et donc, justement, de participer à l'amélioration de la situation relative aux déchets plastiques dans le monde.
Et comment Matmut soutient, du coup, cette initiative ?
Eh bien, Matmut soutient financièrement cette initiative, avec d'autres partenaires, d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Et puis aussi, bien entendu, au-delà du soutien financier, ben, c'est la promotion de cette initiative, avec notre capacité aussi à faire partager ce genre de choses, d'en parler, d'associer nos collaborateurs, qui sont évidemment très intéressés par la démarche. Voilà, donc ça, c'est un exemple concret de notre engagement en faveur du développement durable. Alors, un deuxième exemple, c'est, là aussi, ça n'a rien de révolutionnaire, il s'agit du réchauffement climatique, quelque chose qui...
J'aimerais tellement que ce soit révolutionnaire, en fait, parce que, en fait, c'est des grandes causes, mais parce que faut que tout le monde agisse, en fait.
Bien sûr. Alors là, nous, on a différents leviers, mais je voudrais en citer un qui est assez important. Bon, en tant qu'assureur, on est investisseur structurel. On place de l'argent. Et donc, on s'est résolument engagé dans des investissements qui sont dans les principes de la COP21, c'est-à-dire le maintien du réchauffement climatique dans une limitation de 1,5 degré ou 2 degrés maximum à l'horizon 2100. Et donc, tout est fait. Maintenant, tous nos placements sont orientés dans cette démarche-là, avec en particulier... Aujourd'hui, on a d'ores et déjà exclu le charbon de nos placements. En 2030, ce sera le pétrole et le gaz de schiste, ensuite le pétrole plus tard, etc.
Et pourquoi pas avant le pétrole ? Pourquoi est-ce que le processus, c'est peut-être une question stupide, mais enfin, en même temps, il n'y a pas de question stupide.
Non, il n'y a aucune question.
Pourquoi est-ce que le pétrole, on ne se dit pas tout de suite, on l'enlève ? Parce que c'est compliqué, c'est plus long ?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le pétrole, aujourd'hui, si tu le supprimes, il n'y a pas la capacité à le remplacer. C'est illusoire de penser que du jour au lendemain, on va... La deuxième raison, mais ce n'est peut-être pas la plus importante, la deuxième raison, c'est que certains opérateurs pétroliers deviennent des vrais promoteurs des énergies renouvelables. Je pense notamment au groupe Total, qui est un groupe qui va devenir bientôt le numéro de l'investissement en énergie verte. Donc, faut aussi se méfier un petit peu des idées un peu préconçues en la matière ou des premières idées. C'est-à-dire qu'il faut un peu regarder dans le détail.
C'est pour ça que c'est intéressant.
Et donc,
que tu
moi, j'ai aucun sujet aujourd'hui à investir chez Total, justement parce que cette stratégie, elle est clairement affichée par la direction de l'entreprise. Alors, est-ce qu'en 2050 ou en 2040, les choses seront différentes ? C'est-à-dire qu'on attend quand même que ces sociétés fassent le pas. Donc, c'est pour ça qu'on laisse un petit peu de temps à ces sociétés de s'adapter.
Du coup, je vais avoir Total dans l'empreinte, je vais être challengé. Je te dirai, du coup, s'ils s'engagent vraiment.
Écoute, je pense qu'ils le font vraiment.
Oui,
ils ont les moyens de le faire.
Ils ont pris un virage, en fait, vraiment.
Ouais, ils ont les moyens, en plus, de le faire, donc c'est toujours positif. Ça. Donc voilà, donc ça, pour deux exemples assez nets. Bon, je te passe sur les investissements, etc.
Oui, parce qu'il faut qu'on aborde quand même les deux autres piliers.
Il s'agit d'une part de l'inclusion et de l'autre du bien-être. Alors, l'inclusion, c'est quoi pour nous ? L'inclusion, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être l'accès à beaucoup de choses pour tout un tas de populations qui n'ont pas forcément accès. Alors ça se traduit dans nos offres de produits, etc., où on facilite les choses pour les personnes en situation de handicap, etc. Mais c'est pas cet exemple-là que je voudrais donner. Ce que je voudrais donner, c'est on a près de Rouen, puisque le siège de la Matmut est à Rouen, on a créé de toutes pièces, enfin à partir d'une demeure du 19e, on a créé un centre d'art contemporain où on organise régulièrement des expositions d'artistes contemporains. Alors si tu veux, tu es le bienvenu d'ailleurs. Le centre d'art contemporain est d'accès gratuit pour toutes les populations et en particulier pour les personnes qui sont en situation de handicap, qui ont des difficultés, etc. Donc là, on a vraiment une action d'inclusion dans le domaine de l'art. Donc, nous, notre mécénat dans le domaine artistique, ce n'est pas seulement un mécénat destiné à promouvoir l'art en général, c'est vraiment dans cette orientation.
C'est l'art inclusif, en fait.
Voilà, c'est l'art, mais dans une logique inclusive. Voilà, c'est un peu ça, notre orientation. Alors ça, c'est un exemple de, dans le domaine de l'inclusion. Il y en a,
pour l'égalité homme-femme, est-ce que du coup, je pense qu'il y a une certaine parité au niveau des postes en interne,
oui, alors
tout
on
ça.
On a les deux tiers de l'entreprise qui sont des femmes, en l'occurrence.
Du coup.
Mais bon, ça, c'est une façon...
Alors, où sont les hommes?
C'est une façon de répondre qui n'est pas la bonne. En réalité, là, bon, on a un indice... Tu sais, il y a ce système de suivi.
Oui.
On a une très bonne note. Enfin, on est au-dessus, on est à 92.
Mais c'est une vraie volonté du groupe, en fait, de maintenir ça. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi la dynamique. Oui. Parce que parfois, moi, je reçois des personnes qui me disent, bon, on n'est pas encore à la parité, mais vraiment, c'est une volonté de... Voilà, le but, c'est d'y arriver.
Exactement. Et moi, je dois dire qu'à titre personnel, c'est un élément que j'intègre dans les recrutements que je fais. Oui, bien sûr. Oui, c'est important.
Et tiens, d'ailleurs, tu me dis à titre personnel, et c'est intéressant aussi pour nos auditeurs, avant d'aborder le troisième point qui est la QVT. Mmh. Toi, à titre personnel, est-ce que tu es un homme qui a toujours été engagé d'un point de vue RSE, ou finalement, c'est un peu arrivé avec le temps, les prises de conscience actuelles, etc., ou tu avais déjà le bon sens écologique quand tu étais plus petit, ou...
Je vais être assez franc, en
fait. Je préfère que tu me dises que tu roulais en 4x4 et que
non,
tu avais...
Non, je ne roulais pas en 4x4, mais honnêtement, c'est... En revanche, j'ai toujours été extrêmement sensible au monde de la mer, en fait. C'est un domaine qui est...
Le classique Odyssée, un peu, peut-être.
Oui, ça a joué, effectivement. Ouais, j'ai longtemps fait du bateau, et je continue à en faire. Donc, c'est un sujet, un écosystème, quelque part, auquel je suis très sensible. Et c'est vrai que la notion, je parle de problématiques climatiques, mais il y en a d'autres, hein, c'est quelque chose, je ne dirais pas que j'y ai été sensible dès l'âge de 10 ans, mais néanmoins... Au fur et à mesure que le temps a passé, et c'est vraiment une préoccupation forte pour moi. Le deuxième sujet, je parlais de l'inclusion, c'est cette notion de... Là, pour le coup, c'est peut-être aussi quelque chose de plus récent, mais néanmoins très vif, c'est la question du handicap. La question du handicap est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. On essaye de faire des choses, c'est pas toujours simple dans l'entreprise. Pourquoi c'est pas simple? Parce que... Il faut, pour recruter des gens qui sont en situation de handicap, c'est pas toujours simple. Il faut mettre toute une série de choses en place. Alors, quelle que soit la nature du handicap, d'ailleurs. Mais en tout cas, on fait beaucoup de choses dans le domaine. On passe des accords avec des associations spécialisées de façon à recruter des gens qui sont dans cette situation et à qui on confie des tâches particulières. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'on est dans un monde où les tâches les plus simples... sont de plus en plus automatisés.
Oui, tout à fait.
Donc, il y a cette espèce de course, en fait, pour permettre à ces personnes d'être en mesure d'effectuer des tâches qui sont de plus en plus élaborées. Donc, ce n'est pas toujours simple. Voilà. Mais néanmoins, c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc,
tu es un homme engagé, déjà. De toute façon, on ne peut pas être engagé sur tout, hein, mais toi, tu as des convictions personnelles
effectivement. Notamment... La dimension humaine, pour moi, est très importante. Et puis, le dernier, on parlait du bien-être.
Point, alors, le bien-être, c'est,
ça va... Non, en fait, c'est dans notre esprit, le bien-être, ça va au-delà de la qualité de vie au travail. C'est, je dirais même plus, c'est une problématique autour de la santé de nos concitoyens. Alors, on est très convaincus de l'importance de l'activité physique. On considère que... Au-delà de maintien en bonne forme, c'est quelque chose qui est un élément potentiellement assez déterminant dans la rémission de certains cancers, notamment.
La marche. Moi, je sais que je marche 20 km par jour. Enfin, 15 maintenant, j'ai un peu réduit.
C'est pas mal.
Mais c'est déjà pas mal. Et moi, j'ai jamais de douleur au dos, j'ai jamais...
Ouais. C'est très important et c'est même curatif. Et donc ça, on croit beaucoup... On croit beaucoup à cette idée que l'activité physique est un élément qui peut améliorer la santé de nos concitoyens de manière assez importante. Et donc, on a lancé un programme qui s'appelle Né pour bouger, qui consiste à justement favoriser cette activité physique. Alors, ça se traduit, entre autres, par la mise en place... Alors, on a une activité d'assurance santé, hein, et de mettre en place des garanties qui permettent de bénéficier d'un remboursement de ces activités physiques sur ordonnance, une disposition qui a été prévue dans un
texte
de loi.
Sur ordonnance, c'est-à-dire seulement si on a une pathologie ?
Alors oui, dans le cas d'espèce, c'est si on a une pathologie, on peut de fait bénéficier donc, d'un certain nombre de séances qui sont remboursées grâce à la mutuelle Matmut, de coaching ou d'entraînement physique qui permet justement de contribuer à cette amélioration de la santé de la personne. Mais par ailleurs, c'est aussi toute une série d'actions de promotion de l'activité physique. On a un programme à la télévision qui s'appelle Né pour bouger, etc. Enfin, on a mis l'accent en partie là-dessus, en particulier là-dessus. Et puis, on est sur l'aspect santé et donc de bien-être. On a financé, il y a quelques années, on continue à le faire, un hôpital qui est un hôpital de renom, qui s'appelle l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris, qui est un hôpital d'excellence, notamment dans le traitement des pathologies cardiaques et digestives. Et donc là, c'est 30 millions d'euros qu'on a mis dans cet hôpital pour justement lui permettre de continuer son activité, en réalité. Parce que l'équilibre financier d'un hôpital aujourd'hui, c'est pas simple. Franchement, c'est pas simple. C'est d'autant moins simple que c'est un hôpital qui pratique des tarifs du secteur 1. C'est-à-dire, vous savez...
Oui, il y a plusieurs secteurs, oui, tout à fait.
C'est des tarifs qui sont remboursés complètement par la Sécurité sociale et les mutuelles. Et donc, les gens qui viennent là ne déboursent pas un centime pour se faire soigner. Et il y a des technologies d'excellence, notamment de pointe sur les valves cardiaques, etc. Donc là, on est sur un sujet santé, bien-être, qui est vraiment quelque chose d'important pour la Matmut. Et qui est là aussi beaucoup dans son ADN, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une structure qui s'est créée aussi en proximité beaucoup du monde de la mutualité santé. Et puis, pour terminer sur ce sujet-là, alors je ne sais pas si tu as suivi l'actualité récente, mais les fédérations de l'assurance ont décidé de rembourser, ce que ne fait pas du tout la Sécurité sociale, des séances auprès de psychologues. C'était dans les news ce matin. Donc, un certain nombre de séances seront remboursées par les mutuelles parce que les gens, on estime, je pense à juste titre, que les Français souffrent de cette période de confinement.
Tout à fait. Il y avait des chiffres qui sortaient à ce sujet assez alarmants.
Et qu'il y a de plus en plus de cas de personnes qui sont vraiment en souffrance psychologique forte. Et donc, cette démarche qui est menée par l'ensemble de ce qu'on appelle les complémentaires santé, nous l'avons lancée. L'année dernière déjà. Donc nous sommes clairement inscrits un petit peu en amont des autres dans cette démarche qui consiste justement à prendre en charge, pour le bénéfice de nos adhérents, ces consultations auprès de psychologues, justement dans ce contexte très particulier qui est celui du Covid, où les populations, notamment les populations jeunes, souffrent beaucoup d'être isolées, du manque de liens sociaux, etc.
Dis donc, c'est riche tout ça. C'est
ouais.
Non, mais c'est hyper intéressant et on voit aussi les engagements des grands groupes parce que souvent on essaie dans l'empreinte d'avoir vraiment tous les acteurs, que ce soit des startups, des grands groupes. Et souvent, c'est simple quand une startup naît sur un business model éthique, responsable, c'est plus simple. Mais on voit aussi que des grands groupes s'engagent et ça, je pense que c'est hyper intéressant pour nos auditeurs. Et avant de conclure cet épisode, est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ensemble ?
Moi, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Simplement, ce que je pense, c'est que, tu le disais à l'instant, bon, les grands groupes s'investissent. Je pense que beaucoup de gens le font. Et c'est très bien, parce que je pense que ça fait partie de la solution de l'équation. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans un monde de transition. Genre, transition écologique, transition numérique, on l'a vu, transition sociétale, transition démographique. C'est un monde qui est fondamentalement... moi, je vais dire une chose. J'avais 9 ans en 73, au moment de le premier choc pétrolier. J'ai l'impression d'être dans la crise depuis que j'ai 9 ans. En gros, c'est... Mais oui. Enfin, on parle de crise. Alors qu'en fait, c'est pas une crise en réalité. C'est une profonde transformation du monde dans lequel on vit. Et cette transformation, évidemment, elle inquiète les gens. Et les transitions que j'évoquais, c'est des facteurs de stress, c'est des facteurs d'inquiétude. On le sent beaucoup chez nos concitoyens, cette inquiétude vis-à-vis de l'avenir. Et je pense que notre rôle, en tant qu'assureur, et en particulier à notre échelle, la Matmut, c'est justement d'accompagner nos concitoyens, dans la bonne appréhension de ces transitions. En fait, les aider à passer le cap, enfin, à traverser cette période. Donc, ça veut dire, en gros, être créatif. Imaginer des nouvelles solidarités, leur donner le sentiment que ils sont protégés et donc ils peuvent aller de l'avant. Pour moi, c'est essentiel. L'assurance, c'est d'abord ça, c'est permettre aux personnes de se projeter vers l'avenir, parce qu'on leur enlève un certain nombre de soucis, et c'est se projeter vers l'avenir en confiance. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Moi, aujourd'hui, ce qui me motive, au-delà de faire fonctionner l'entreprise, etc., parce que ça, c'est mon pain quotidien, et c'est vrai que c'est satisfaisant quand ça marche bien, c'est vraiment ça, c'est d'apporter une pierre pour faciliter le passage, en quelque sorte, de la population qui nous fait confiance vers ce monde qui se dessine, mais
qui inquiète.
Et qui inquiète aussi beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup, Nicolas.
Je t'en prie.
Merci à vous d'avoir écouté l'Empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants que Nicolas. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'Empreinte.
Merci, Alice.